Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs sur la fréquence de la paix. La République démocratique du Congo, RDC, et la République du Rwanda ont signé samedi 26 juin à Goma, au Nord Kivu, trois accords de coopération bilatérale. Le premier accord porte sur la promotion et la protection des investissements. Le deuxième sur la convention entre les deux pays en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus. Et enfin, le troisième protocole d'accord de coopération entre la société aurifère du Kivu et du Maniema Sakima et d'ITER LTD du Rwanda. Comment commentez-vous cette actualité? 081-890-4969 sur le numéro d'appel pour intervenir en direct. Cette émission est mise en nom de par Jean-Claude Nsiala. Kiria Ambatia est à la réalisation. Et quant à moi, Pierrot et la Meiji, c'est un réel plaisir de vous la présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Et pour échanger sur cette question, nous avons associé le professeur Emmanuel Mukundi, qui est économiste et député national, élu des Nyonzo dans le Tanganyika. Professeur Mukundi, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que d'abord la RDC et le Rwanda, des accords bilatéraux sur les questions économiques? Est-ce que c'est vraiment une nécessité?
Merci beaucoup pour m'avoir intégré, la Radio Capi pour m'avoir intégré à ces partages scientifiques afin d'éclairer notre population. Évidemment, est-ce nécessaire? Je crois que nous allons le voir. Répondre comme ça, c'est difficile. Mais je voudrais quand même qu'on associe à ces accords appelés accords de développement, qu'on associe en prélude les échanges des Rubavu entre notre président Félix et Paul Kagame sur l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Est, la communauté économique des États de l'Est, et ainsi que les travaux qui ont eu lieu ici à Kinshasa, qui se sont terminés le vendredi, parce que vous comprendrez que, outre ces accords, il y a ces processus d'intégration. C'est nécessaire ou c'est pas nécessaire, mais il faut voir l'objectif d'abord. À mon humble avis, après avoir scruté ces accords, j'ai découvert que l'objectif ultime ou l'objectif principal, c'est consolider la paix et promouvoir une prospérité partagée. Ça, c'est l'objectif ultime. Et cet objectif est étayé maintenant dans les accords par les objectifs spécifiques. Premièrement, poursuivre les efforts mutuels pour mettre fin à l'insécurité dans la région. Deuxièmement, créer les conditions favorables au développement, surtout au commerce transfrontalier et à la coopération économique. Voilà, si effectivement nous prenons l'objectif principal, qui est celui de consolider la paix et promouvoir une prospérité partagée, je vous dis d'emblée que c'est très nécessaire, c'est très important. Mais si nous analysons dans le fond, dans la pratique ou dans notre modus vivendi avec nos voisins du Rwanda, il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Voilà ce que je peux dire par rapport à la nécessité.
Alors, on sait qu'il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a eu ces relations tendues entre la RDC et le Rwanda. Mais est-ce que, au-delà de toutes ces divergences autour des questions de sécurité, de tout ce qui est arrivé, faudra-t-il aujourd'hui avoir un regard au-delà de ces considérations peut-être passées ou récentes sur le plan de relations tendues entre les deux pays?
Bon, en fait, si je paraphrase le président de la République, notre président donc, je peux dire, il disait ceci, je cite, « Nous avons perdu tant d'années à vivre en nous regardant en chien de séance, je crois, en vivant des tensions et en situation de guerre, mais aussi à partager la haine. Maintenant, ça suffit. » J'ajoute le président Kagame qui dit, moi et le président Tshisekedi, disait-il, convenons que l'absence de paix et la stabilité ne doit pas devenir une situation permanente dans nos deux pays. Mmh. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous y habituer. Voilà. Donc, partant de ces deux situations ou de ces deux déclarations, moi, je trouve que nous sommes dans cette phase de consolider la paix dans notre pays. Mais cependant, faudra-t-il quand même qu'on analyse les accords dans le monde. Si nous analysons dans les accords, je commence par les accords commerciaux, transfrontaliers. Ça, ce n'est pas une innovation de la République démocratique du Congo. Les accords ont été signés par plusieurs pays, même en Afrique, il y a beaucoup d'accords. J'ai toujours donné l'exemple de l'accord signé dans le cadre de la Benelux. La Benelux, c'est la Belgique, la Néerlande, les Pays-Bas aujourd'hui et le Luxembourg dans les années 50. Cet accord qui a apporté un plus pour la création de la communauté économique européenne et le pacte agricole européen. Si vous regardez, c'est à partir de cet accord qu'on peut dire, ou que les autorités disent, effectivement, la Deuxième Guerre mondiale a pris fin. La tension entre les grandes puissances européennes, l'Allemagne et la France, a pris fin. Pourquoi ? Parce que dans le soubassement, dans les cachets de la guerre, c'était l'exploitation des produits du sous-sol, notamment les charbons et l'acier. Ces deux pays s'est battu parce qu'ils ne savaient pas comment exploiter ensemble. Chacun voulait gagner, chacun tirait le drap de son côté. Mais en fin de compte, avec cet accord sur la CE, cet accord sur le pacte agricole européen, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'Allemagne et la France n'ont pas le droit de pouvoir rentrer dans la guerre. Ils ne peuvent même plus rentrer dans la guerre parce qu'ils se sont convenus avec les accords économiques dont le fondement est la recherche du mieux vivre ensemble. Mmh. En Afrique, même ici autour de nous, la République démocratique signe beaucoup d'accords. La République démocratique du Congo a signé beaucoup d'accords avec nos voisins. Je peux citer le Congo-Brazzaville, l'Angola, la Zambie et avec d'autres. Et même avec le Rwanda, nous avons beaucoup d'accords que nous avons signés. Mais le plus grand problème, d'ailleurs, beaucoup d'observateurs en parlent, le plus grand problème avec le Rwanda, c'est le manque de sincérité. Voilà, c'est le manque de sincérité. Il y a beaucoup de choses qu'on peut s'en souvenir. Par exemple, en 2010, l'ancien président Kabila a fait un voyage du type au Rwanda d'Ali. Ils ont eu beaucoup d'échanges, au travers même des diplomates, au travers des ministres des Affaires étrangères, beaucoup de changes, beaucoup d'accords dans ce sens-là, en marge de ce qu'on parlait, mais plusieurs accords, mais malheureusement, lorsqu'on regarde dans le monde islamique, comme je le dis, avec le Rwanda, il n'y a pas ce respect de paroles données, il n'y a pas ce respect d'accords. Et on se souviendra, après les accords de 2010, vous avez eu les CNDP, vous avez eu les M23, vous avez eu autre chose. Voilà ce qui met en doute certaines personnes qui se disent, mais les accords mieux, est-ce que le Rwanda, notre voisin, a la même bonne foi que notre président et le peuple congolais? Sur le plan commercial, il faut rappeler, il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés. Et le plus récent, c'est celui qui est patronné par le système commercial multilatéral, piloté par le projet pour la facilitation du commerce dans le Grand Lac. Si vous prenez cet accord-là, qui est évidemment l'accord de toute la sous-région de Grand Lac, mais avec le Rwanda, nous sommes arrivés à construire le port sec au niveau de la Grande Barrière, tout comme au niveau de la barrière à Biré, ça nous sommes à Goma. Nous avons construit les ports à Ruzizi et beaucoup d'autres projets. Mais par conséquent, on remarque qu'il n'y a pas cette sincérité, même dans la pratique. Vous êtes au niveau de Rubavu, par exemple, ça c'est le Rwanda, vous constaterez que les autorités qui devaient réguler la chose pour que l'accord soit bien appliqué acceptent qu'il y ait fractionnement des marchandises. Un grand commerçant qui arrive avec des conteneurs en provenance de l'étranger, il arrive à Rubavu, il fractionne les marchandises pour permettre à ce que ces petites marchandises traversent le Congo sans payer la frontière et sans payer les droits des douanes. Vous voyez la conséquence, l'accord est signé, mais les autorités regardent combien de marchandises traversent du Rwanda vers la République démocratique du Congo en étant fractionnées et sans aucune intervention. Donc voilà, avec ça, pourtant, si vous prenez cet accord, c'était un accord de facilité des commerces. C'est-à-dire, puisque nous sommes des pays frontaliers, nous ne pouvons pas empêcher que nos populations qui sont à Goma ou à Gisenyi puissent échanger des petites choses, des biens de première nécessité, les produits de consommation de base. on peut laisser échanger sans pour autant alourdir la charge avec les taxes. Parce que lorsqu'on alourdit la charge avec les taxes, c'est les prix qui augmentent les produits et ce sont les consommateurs qui parlent des autres, que ce soit au Rwanda, que ce soit la République démocratique du Congo qui en pâtissent. Mais malheureusement, lorsqu'on voit ces accords-là, qui est un bon accord, malheureusement, cet accord n'est pas appliqué. On vit chaque jour à des fractionnements des marchandises, on vit chaque jour à la fraude. Donc, je peux conclure en disant, c'est nécessaire, mais il y a un problème dans le modus operandi et dans le modus vivendi avec le Rwanda. Le socle de doute des Congolais, c'est le manque de sincérité. Voilà, parce que
alors, mais professeur, parce
avec
que vous
Rwanda,
évoquez
qui a Douara.
Voilà, vous évoquez le manque de sincérité, mais est-ce que la RDC, sur le plan du fonctionnement interne, on sait aussi comment qu'il y a eu plusieurs fois des dénonciations des Congolais eux-mêmes qui importent de marchandises en passant par le Rwanda, sans pour autant d'ailleurs payer la douane à RDC et qui se couvre, on l'a vu, derrière par exemple des officiers militaires, que ce soit des hommes politiques pour faire passer des marchandises et des grandes quantités de marchandises sans payer la douane. On se rappellera même que l'année passée, il y a eu le gouverneur du Sud Kivu qui a saisi une grande quantité d'huile, que ce soit aussi à Goma, je crois bien, qui ont traversé ainsi sous la couverture politique sans pouvoir payer. Mais est-ce qu'il n'y a pas des efforts à faire de part et d'autre? Bien sûr que le Rwanda doit faire ses efforts pour être dans la sincérité, de la manière aussi que la gouvernance douanière, fiscale doit être améliorée du côté de la RDC.
Monsieur Pierrot, comme vous le savez, je suis toujours celui qui soutient les échanges ou les libre-échanges pour plusieurs raisons. D'abord, je suis professeur en économie internationale. Deuxièmement, je suis parmi les négociateurs de la zone de libre-échange continentale. Et enfin, j'étais directeur des cabinets. Lorsque je vous parle de l'accord sur le PEF-CGL, j'étais directeur des cabinets au commerce. Lorsque je vous parle des accords sur le PEF-CGL, je sais de quoi je parle. C'est très important. Je l'ai toujours dit, je suis d'accord sur l'ouverture. C'est vrai qu'on peut condamner le manque de sincérité du Rwanda, ce qui est vrai. Ce n'est pas à douter, c'est vrai, les Congolais en parlent, mais nous devons rentrer aussi intrinsèquement à nous-mêmes. Il faut faire aussi une introspection. Lorsque nous faisons une introspection, c'est vrai qu'il y a aussi des barrières au niveau de notre pays. C'est là que beaucoup de gens disent, c'est les désaveux. En signant ces accords, et particulièrement le protocole entre les deux sociétés congolaises et rwandaises, en signant ces accords, beaucoup de gens disent, c'est un désaveu de la part du gouvernement. Un gouvernement qui se sent incapable de pouvoir organiser ses structures internes. Un gouvernement qui se sent démobilisé des ressources internes. Un gouvernement qui se sent incapable d'attirer les investisseurs directs étrangers pour pouvoir raffiner, par exemple, en ce qui concerne l'or et d'autres minéraux dans notre pays, qui va s'abandonner devant un partenaire qui est douteux. Voilà, beaucoup de Congolais disent ça. Beaucoup de Congolais disent que ce partenaire est douteux parce que, avec le Rwanda, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le gouvernement devait commencer d'abord, c'est ça le point de vue des uns et des autres, le gouvernement devait commencer d'abord à pouvoir organiser l'économie sur le plan interne. Et nous avons toujours dit comment on peut organiser l'économie sur le plan interne. Nous disons toujours l'économie à deux secteurs. Vous avez les secteurs de la production, de la consommation et de la commercialisation de produits, ce qu'on appelle les secteurs réels. Et par ailleurs, vous avez les secteurs où la sphère financière et monétaire. C'est cette sphère-là, c'est ce secteur-là, financière et monétaire, qui est le sous-bassement, qui est le support de l'économie. Si on n'organise pas le système financier de notre pays, il sera impossible de pouvoir trouver le moyen d'organiser l'économie à l'interne. Voilà pourquoi le gouvernement, par exemple, qui se sent incapable de lever les fonds sur le marché international, qui se sent incapable de trouver les fonds à l'interne parce qu'il n'y a pas un système financier adéquat ou idoine par rapport à notre économie, le gouvernement va s'abandonner dans le mur du Rwanda, qui ne produit pas les cas échéants, qui n'a pas les gisements d'or, mais qui doit raffiner l'or à la place de l'économie congolaise. Quelles sont les conséquences, M. Pierrot? Il y a quatre conséquences qu'on peut prendre sur le plan de la richesse générée ou de revenus. Vous comprendrez qu'économiquement, lorsque on signe cet accord, c'est l'industrie des raffineries qui gagne en termes de valeur ajoutée. Alors que l'industrie extractive ne gagne rien en termes de valeur ajoutée. Et le cas échéant, donc c'est le Rwanda qui a l'industrie des raffineries qui va gagner Et la République démocratique du Congo, bon, va se contenter des miettes, de vendre des produits bruts au Rwanda. C'est une autre manière de fuir, de vendre des produits en Chine ou en Europe. Et puis on va... reste les mêmes. Économiquement, ça ne change pas. Ce sont les mêmes pierres qu'on prend en République démocratique du Congo, qu'on vendait hier en Europe ou en Chine. Aujourd'hui, on va vendre au Rwanda. Donc, en termes de richesse, le Rwanda est gagnant, nous sommes perdus. Deuxièmement, c'est en termes de l'emploi. En termes de création de l'emploi, la République démocratique du Congo vient de céder une grande opportunité d'emploi au Rwanda. Tout simplement parce que si elle pouvait mobiliser les fonds ou le moyen afin de créer la raffinerie au Congo, ça serait une entreprise de raffinerie locale. Et par conséquent, vous avez les investissements qui vous demandent d'office la création d'emplois. Et cela réduirait le chômage dans notre pays. Mais malheureusement, c'est le Rwanda qui va bénéficier de cette politique de réduction du chômage. Sur le plan des finances publiques, si vous prenez sur le plan des finances publiques, vous vous rendrez compte que c'est toujours le Rwanda qui va bénéficier. Surtout, c'est pourquoi j'ai parlé de l'accord sur l'intégration de la République démocratique du Congo dans la zone de libre-échange de la communauté économique est-africaine. Si cet accord effectivement est signé, parce qu'il y a des travaux qui se sont terminés le vendredi à l'hôtel, je crois, Rotana, si cet accord est signé et que la République démocratique entre dans cette zone, ça voudrait dire que nos marchandises vont traverser du Rwanda à la République démocratique du Congo, de la République démocratique du Congo au Rwanda, sans payer les droits de douane. Quelles sont les conséquences sur le plan des finances publiques? Ça veut dire que tout ce que nous payons comme droits de douane, ou tout ce que nous bénéficions comme droits de douane en termes d'exportation d'or et d'autres produits miniers, que nous faisions soit en Chine ou en Europe, nous allons perdre ça, d'autant plus que nous n'allons plus taxer au Rwanda. Donc voilà ce que nous allons perdre sur le plan financier. Par contre, sur le plan, je voulais dire, enfin sur le plan monétaire, c'est d'énormes manques à gagner en ce qui concerne les réserves de change. Pourquoi? Parce que la Banque centrale n'aura plus de devises en provenance, n'est-ce pas, de l'exportation de l'or. D'autant plus que les portes sont ouvertes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La Banque centrale va perdre et ne saura pas consolider les matelas de devises qui lui permettraient de faire sa politique d'échange, dont l'objectif est la stabilité du franc congolais.
Alors, voilà, j'étais par là alors.
Oui, alors, si on prend tous ces éléments-là, en dépit de tout ce que les autres disent, parce qu'il y a ceux qui pensent que ces accords, c'est bien, parce que ce sont des accords qui permettent de pouvoir finir avec la guerre, ce sont des accords qui permettent de faire une complémentarité entre nos deux sociétés. En dépit de tout ça, moi je pense que ceux qui disent que ces accords ne sont pas assez bénéfiques pour la République démocratique du Congo, c'est tout dans cet angle économique. Quand je prends les quatre secteurs de l'économie, tels que je viens de détailler. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça.
Alors, on va revenir à vous, professeur, le temps d'écouter les auditeurs qui sont nombreux sur notre standard 081-890-4969, 081-890-4969 sur le numéro d'appel pour intervenir en direct. Mais les débats, nous les poursuivons aussi sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport à
ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vous.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Alors nous avons Jean-Paul qui nous appelle d'Ilebo dans la province du Kasaï. Jean-Paul, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et la Menji. Bonjour aux auditeurs de la radio Okapi. C'est monsieur Jean-Paul Bampemba, parti d'Ilebo, monsieur Pierrot.
On vous écoute, Jean-Paul.
Oui, monsieur Pierrot, je crois que ces accords sont louables, bien sûr, mais il faut contrôler, voir la vision de nos voisins, revoir ses intentions et ses anciennes relations à notre égard. Le président du Rwanda n'a jamais témoigné et montré plutôt une bonne face aux Congolais, compte tenu de ses propos médiatiques chaque fois qu'il s'adresse soit à sa nation ou à l'étranger. Et je doute fort que ces accords puissent d'abord être au bénéfice de notre pauvre pays. Surtout que les sud et le nord du pays sont à tout temps massacrés, guerres, qui ne sont pas tellement identifiées à cause de certaines personnes qui envisagent la richesse de notre pays et en train de nous massacrer chaque jour. Donc, le président rwandais n'a jamais témoigné une bonne relation comme notre voisin plus proche. Donc, ces accords vont profiter au Rwanda de nous massacrer comme ils ont toujours l'habitude de massacrer l'est du pays et le nord du pays.
Alors, vous estimez, Jean-Paul, que les accords vont profiter, que la guerre puisse continuer, c'est ça, en d'autres termes?
Oui, parce que juste peut-être, ils ont toujours tendance à profiter, nous massacrer officiellement, mais à travers ces accords, ils peuvent profiter. Donc, nous, les peuples congolais, ensemble avec notre président, nous devons d'abord revoir ces accords et avec les intentions Pierrot et la Mégie. Puisque quelqu'un qui n'a jamais témoigné une bonne relation en face de vous, chaque fois qu'il fait ses sorties médiatiques, est-ce qu'à travers les accords, il peut d'abord manifester déjà une bonne volonté?
Alors là, vous êtes revenu sur la question de la sincérité. Faudrait-il aujourd'hui traiter de quelle manière avec le Rwanda? Vous estimez qu'il revient au Rwanda d'être sincère pour que les accords puissent profiter à tout le monde et à la RDC. Merci beaucoup, François. Vous êtes
oui,
à Mouïga. Bonjour.
La sincérité, comme le professeur en a témoigné, la sincérité d'abord dans ces accords-là. Le Rwanda n'a jamais été sincère à travers ou envers d'abord la RDC.
Vous venez de
le
dire.
Donc, il faut d'abord une sincérité dans ces accords, Pierrot et la Mégie.
Merci beaucoup. Vous venez de le dire tout à l'heure. François, quel est votre point de vue? Bonjour.
Bonjour, Pierrot et la Mégie. Bonjour, Madame Jocelyne. Et bonjour aussi au professeur qui est avec vous. C'est Okundi Lange François depuis Kassai à Mouïga. Par rapport à la thématique qui est en débat, M. Pierrot et la Mégie, en droit public international, c'est une avancée sur le plan développemental. Car il est difficile qu'un pays puisse s'autosuffire dans tous les domaines. Si hier, les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo, notre pays, et le Rwanda n'ont pas été fortes ou bien entretenues, mais il y a aussi l'évolution. Avec l'évolution du monde, c'est bien de rattraper ces retards. L'essentiel serait que tous ces trois accords bénéficient au peuple congolais et rwandais, et non aux fins politiques ou aux recommandations étrangères occidentales. L'Est du pays est une voie non négligeable en matière d'exportation des marchandises. La promotion et la protection des investissements est un palier de la bonne gouvernance et du développement d'un pays. Du point de vue des sociétés, Sakima, Sa, Dumaniema, Editer, LTDD, je note qu'il faut appliquer la politique des gagnants-gagnants pour permettre aux autochtones d'émerger géographiquement. Et c'est bien par rapport à ces derniers points, je voulais vous faire voir avec l'intervenant professeur, que l'obtention des accords par des États et que les investisseurs viennent dans une province, par exemple. Il faut aussi tenir compte des intérêts de la population autochtone qui doit bénéficier, un, de l'emploi, d'un bon écologie, c'est-à-dire il faut aussi lier la construction des hôpitaux, des écoles en faveur de ces populations autochtones, plusieurs bureaux et les messieurs. Voilà ma contribution,
merci. Merci beaucoup, François. Vous estimez qu'un pays ne peut pas s'autosuffire seul, mais il faut que ces accords soient vraiment gagnant-gagnant pour que cela profite non seulement aux politiques, mais que les populations qui vivent, n'est-ce pas, de part et d'autre, puissent en bénéficier. Merci beaucoup, Éminent. Vous êtes à Bukavu. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
On vous écoute, Éminent.
Vraiment, les accords signés entre la RDC et le Rwanda ces derniers temps, peut au moins rajeunir encore la relation bilatérale entre les Congo et la RDC. Mais les choses cachées, soit on peut avoir aussi un mouton caché dedans là-dessus, parce que quelqu'un, en fait, c'est l'un de ces alliés, peut vouloir faire signer ces accords pour maintenant montrer sa force, pour prouver maintenant combien de fonds il est fort. Ou soit l'autre peut aussi attirer l'autre à signer cet accord, ces accords, afin qu'il puisse maintenant s'approcher de l'autre et après, il va maintenant exécuter son action. Mais ce que je peux dire, monsieur Pierrot, on ne peut pas se garder totalement de la République du Rwanda, mais il faut voir des lois. Parce que nous savons avec les rapports de mapping, ce que le président rwandais avait déclaré, et ce que aussi notre président avait déclaré quant à ça, on a lu réellement que ce n'était pas, il n'y a pas vraiment une bonne relation. Mais subitement là, il n'y a pas même de médiation, il n'y a pas même d'autres personnes qui pourraient même les mettre ensemble afin de trouver au moins une solution, soit un consensus quant à ça, parce qu'il y a d'abord les Rwandais qui nient les criminalités effectuées à RDC, il y a aussi la RDC qui est en train de réclamer qu'elle soit aussi réparée de dommages et de préjudices causés. C'est pour cela que les accords là signés, de mon humble avis, M. Pierrot, ne sont pas vraiment le quoi là, l'image qui présente ces accords, selon ce qu'on dit, faciliter certaines choses, mais je crois que chacun veut tirer les draps de son côté et veut maintenant montrer au monde combien de fois il est fort. Mais nous devons observer, nous souhaitons seulement des bonnes choses et que ces accords ne puissent pas nous plonger dans le pire, que ce qu'on a déjà connu. On a même entendu avec l'éruption du volcan, dont les Congolais avaient pu au Rwanda, mais on les a mis dans un stade où si même le soleil et l'abside devraient toujours
la question de l'éruption volcanique a eu beaucoup de problèmes, hein. Même les Congolais qui étaient réfugiés même dans d'autres localités à côté de Goma étaient en difficulté, même ceux qui sont allés à Bukavu. Ça, c'est une situation de fait qui est arrivée. Alors, mais votre souci éminent, c'est qu'il y ait la sincérité. Comme l'a dit tout à l'heure notre ami Jean-Paul, vous dites qu'il ne faut pas que derrière la signature des accords entre les deux pays, qu'il y ait un pays profite de ces accords pour montrer à l'autre qu'il est puissant. Parce qu'entre la RDC et le Rwanda, il y a ces relations qui ne sont pas bonnes. Mais la question aussi, c'est de savoir comment améliorer les relations entre ces deux pays qui vivent ensemble et qui seront obligés à vivre encore ensemble autant de générations. Merci beaucoup, Emina. Nous restons à Bukavu avec vous, Amos. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute, Amos.
Merci bien. Nous avons tous suivi ces accords-là qui venaient d'être signés entre la RDC et le Rwanda. Je dois d'abord signaler que la RDC et le Rwanda sont des voisins éternels. Et n'était-ce ce qu'on a toujours connu dans les temps, ces pays sont dans l'obligation de collaborer. Mais collaborer, il y a des exigences. Il fallait d'abord que la RDC soit aussi un État souverain comme le Rwanda l'est aujourd'hui. Mais tant que nous ne serons pas un État souverain, tant que nous serons en train de négocier État à genoux, c'est nous qui serons toujours des perdants. Par rapport à ces accords qui ont été signés, nous sommes en train d'obliger d'abord que ces accords soient rendus publics pour qu'on sache les contenus. Le président de la République, Félix, n'a pas signé ces accords à son nom. Les hommes passent, mais les cieux demeurent à jamais. Il les a signés au nom du peuple congolais. Et nous voudrions qu'on sache les contenus parce qu'on risque de nous flouer davantage. On sait que le Rwanda a toujours envié la RDC. Au Rwanda, il n'y a rien en termes de ressources. Il n'y a rien. Et le Rwanda sait que tant que la RDC, une fois la RDC se relève comme un État souverain, c'est le Rwanda qui perd. Voilà pourquoi la RDC, le Rwanda ne peut jamais vouloir voir la RDC devenir un État réellement souverain. Les deux, ce qui nous a choqué, Pierrot, c'est de constater qu'il n'y a pas longtemps, le Rwanda, le Kagame à Paris, venait d'humilier le peuple congolais jusqu'à cracher sur nos morts. Et en considérant le prix Nobel de la paix comme étant une marionnette. Mais le Rwanda ne s'est jamais excusé, le Rwanda n'a jamais présenté des excuses, mais du coup, c'est notre président qui va au Rwanda et on signe des accords. Là, vraiment, le peuple congolais n'a pas compris.
Alors, Amos, est-ce qu'il revient à la RDC de se battre pour sa souveraineté, pour la reconnaissance des crimes, ou il faut que vous puissiez exiger à celui que vous estimez vous avoir fait du mal de reconnaître que je vous ai fait du mal? Est-ce qu'il revient à la RDC de pouvoir se relever, se battre, ou il faut que la RDC puisse espérer que l'autre puisse lui donner le pouvoir, puisse lui donner la reconnaissance?
Non, c'est à la RDC de se donner du poids. c'est à l'heure d'essayer de tout faire pour qu'il devienne, qu'elle devienne réellement un État souverain. D'ailleurs, il y a un élément très capital, Pierrot, c'est par rapport à ce qu'on a signé pour ce qui est de l'or. Vous savez, on a signé un accord avec Sakima au moment où il y a des contentieux entre Sakima et Comico. Et Somico, il y a un contentieux entre Sakima et Somico et Somico. Jusque-là, Sakima n'a rien sur le terrain. Tout appartiendrait à Somico. On ne comprend pas, on se demande est-ce que réellement le chef de l'État aurait fait recours à des experts, à des techniciens pour d'abord éclaircir cette question avant d'aller signer ses accords avec Sakima. Où on a vendu du vin au Rwanda? C'est une question que tout le monde est en train de se poser. Dédé, les Rwandais n'exploitent l'or nulle part. Nulle part. Mais le Rwanda a joué au Malin, il a construit des raffineries au moment où le Congo a cette capacité de le faire. Mais au lieu que nos dirigeants voient loin, les priorités, c'est d'acheter des chips en termes de corruption pour corrompre les députés nationaux. Ça, c'est très grave. C'est très grave.
Alors, je vais donner la parole au professeur. Voilà, je donne la parole au professeur. Professeur, le Congo, quand on écoute ces débats sur la question de la raffinerie, l'or, le Rwanda, mais rappelons quand même que depuis l'union minière du Katanga, le Congo n'a jamais construit des raffineries. Les minerais partent du Katanga, les bruts sont exportés depuis des générations et des générations. Alors, est-ce que le problème aujourd'hui, c'est pas une considération générale sur cette question des raffineries, parce qu'il c'est pas seulement l'or qui va être exploité dans le Kivu pour être raffiné au Rwanda, mais c'est toute cette question des raffineries qui se pose depuis l'existence de la Gécamines jusqu'à aujourd'hui, professeur.
Merci beaucoup, Pierrot. Je voudrais quand même dire à notre ami Amos, on n'a pas corrompu les députés. Normalement, les députés ne sont pas tous corruptibles. S'il y a des députés qui sont corruptibles, je crois que mon peuple de nous connaît que Emmanuel n'est pas corruptible. Donc, je rentre à notre débat. Je crois que tous les amis, que ce soit Paul qui a commencé, ou Emina ou Amos, ils reviennent à ce que nous avons dit. Qu'est-ce que nous avons dit? D'abord, c'est la sincérité. Et Emina parlait du fond caché. Est-ce que dans ces accords, il n'y a pas un fond caché? Monsieur Pierrot, comme je vous ai dit, je suis un négociateur. Dans les négociations, vous avez toujours un leader et un suiveur. Et le cas échéant, il se dessine que c'est le Rwanda qui est un leader et que la République démocratique du Congo apparaît comme un suiveur. Le leader, il vient toujours avec son agenda. Et il vient avec son agenda, c'est pour faire valoir ce qu'il a et chercher à ce que vous acceptiez par tout le monde ce que lui propose. Alors que les suiveurs, si vous n'êtes pas mal, vous allez accepter parce que, comme l'un a dit, nous ne sommes pas souverains, nous sommes faibles économiquement, évidemment nous ne sommes pas souverains, il faut le reconnaître. Nous avons eu une émission avec vous sur la souveraineté de notre pays. Donc, les suiveurs, généralement, il est toujours perdant s'il n'est pas attentif. C'est pourquoi toute la population réclame à ce que je crois que c'est Amos qui a dit qu'on sache les contenus de ces accords et qu'on en discute. Et je crois qu'on amènera ça au Parlement, on en discutera longuement. Alors, j'ai un système, monsieur Pierrot, en disant ceci. La plupart de ceux qui sont contre cet accord, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas que cet accord serve, n'est-ce pas, du canal de débouchement de l'insécurité ou de la fin de l'insécurité dans notre pays. Mais non. C'est tout simplement en regardant, en faisant une rétrospection dans nos relations avec le Rwanda, on ne trouve pas la sincérité. Ça, c'est un. Et puis, de deux, ça, sur le plan interne, nous regardons et nous constatons que le gouvernement ne fait pas cet effort. Vous venez de le dire, depuis 1900, c'est pas moi, 8 ou 9 avec l'union minière du Katanga, le gouvernement ne fait pas cet effort de comprendre que l'économie aujourd'hui, ça ne fonctionne pas à huis clos. Vous produisez le bien, il faut le produire pour vous-même et pour le vendre aux autres. Pour gagner sur l'économie internationale, pour gagner, on ne peut pas vendre les choses qui n'ont pas de valeur ajoutée. Il faut participer à la chaîne de valeur ajoutée, pas à un mot, mais au milieu ou en avant. Ça voudrait dire quoi? Vous ne pouvez pas être le porteur de moellons ou de pierres
naturelle que vous amenez sur la place internationale et pensez pouvoir réussir votre vie. La place internationale, je n'exclus pas le Rwanda. Comme je le dis dans mes propos d'avant, le Rwanda vient de remplacer ce que nous faisons avec, en ce qui concerne l'or évidemment, à ce que nous faisons pour ce qui est du coltan, du cobalt, du cuivre, ce que nous faisons avec la Chine, ce que nous faisons avec l'Union européenne. Le Rwanda vient de faire ça avec l'or. Et donc, on ne peut pas amener des moellons pour s'attendre à gagner quelque chose. Non, on ne peut pas gagner quelque chose. Et donc, ce que nous devons faire, nous, à notre niveau, moi, je ne refuse pas, comme je vous ai dit, je ne refuse pas les accords. Mais il y a toujours le préalable, c'est la consolidation des structures internes de l'économie nationale. Si on ne consolide pas, on ne sera pas gagné. Voilà la crainte qu'a la population par rapport à ces accords. On ne refuse pas. La population aurait voulu que le gouvernement fasse un effort. Même en s'endettant, j'ai entendu que le gouvernement ait un matelas de devises. Pourtant, ce sont des fonds qui sont venus de la du Fonds monétaire international ou des institutions de Breton ou de manière générale. Mais moi, je pense que le gouvernement devait faire un effort d'élever le fonds sur la place internationale, sur le marché international, afin d'attirer les investisseurs, ou ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, pour construire une raffinerie chez nous. Ça serait un premier point de départ. En regardant ce qui se passe avec la raffinerie qui serait construite, par exemple, à Goma ou à Bukavu, les autres provinces pouvaient s'y référer pour pouvoir voir comment on peut encore trouver les fonds pour ce qui concerne la raffinerie, par exemple, à Kolwezi, à Lubumbashi, à Kalemie et partout ailleurs. Voilà le plus grand problème. Aussi, ce que vient de soulever Amos, c'est vrai, est-ce qu'on a vidé les contentieux entre Sakima et Sokimo? Parce que si on ne vide pas, vous voyez qu'on va laisser ces contentieux rester comme ça, le travailleur de l'ancienne entreprise vont rester abandonnés à leur propre sort, et en fin de compte, c'est la population qui perdra tout ça. Voilà pourquoi nous insistons, nous rentrons sur ce qui est de la structure interne. La structure interne, mon frère Pierrot, c'est très important. Très important pourquoi? Vous devez avoir une industrie financière à vous, afin de soutenir l'économie réelle. Mm-hmm. Vous devez donner la valeur du travail, parce qu'on ne peut pas se développer sans la valeur du travail. Le travail, c'est le premier point de développement, parce que le travail en économie est donné par ce qu'on appelle le capital humain. Et si on ne valorise pas le travail, nous allons tourner en rond en laissant des chômeurs en République démocratique du Congo, tout en donnant de l'emploi dans le pays voisin ou dans nos partenaires internationaux. Il y a une autre chose que je voulais ajouter, M. Pierrot, c'est, outre la valeur du travail, c'est la mentalité. Ça aussi, c'est très important, c'est la mentalité. Nous, on croit qu'on est toujours mineur, on croit toujours qu'on est suiveur, on croit toujours qu'on est faible. On ne peut pas initier quelque chose. Je crois que c'est Amos qui l'a dit. Qu'est-ce que le Rwanda a dans le sous-sol pour penser au loin la construction d'une usine de raffinerie? D'ailleurs, pour le dire, le Rwanda n'a pas assez de moyens pour construire cette usine. C'est-à-dire que le Rwanda a recouru au marché financier pour avoir cette usine. Et qu'est-ce qui nous empêcherait, nous, à penser à ça? Monsieur Pierrot, nous sommes à la phase où nous continuons à penser court terme. Nous continuons à ne pas voir loin. L'accord avec le Rwanda est une vision de loin. Regardez, le Rwanda a commencé d'abord par construire une usine de raffinerie sans avoir l'or. Première chose. Donc le Rwanda voyait que demain ou le lendemain, on finira par arrêter le pillage des minerais. Parce que le Rwanda, par son système de création de forces négatives dans notre pays, pille les minerais et exploite. Mais malheureusement, le Rwanda sait qu'au fur et à mesure, cette guerre finira par s'arrêter. Parce qu'il y a eu des guerres de 100 ans, elles ont fini par s'arrêter. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il faut aller dans les négociations, il faut aller dans l'exploitation pacifique. Premièrement, nous devons assujettir la République démocratique du Congo en créant une usine de raffinerie. Et vous ne pouvez pas aller raffiner ailleurs en évitant le coût des transports alors que le Rwanda est proche. Donc vous devez aller raffiner au Rwanda. Vous devenez dépendant du Rwanda sur le plan économique. Et puis de deux, le Rwanda sait que si nous implantons l'usine au Rwanda, au Rwanda particulièrement, parce que c'est à une centaine de kilomètres de Goma ou de Bukavu, automatiquement, on aura l'impossibilité de pouvoir chercher à court terme ou à moyen terme à implanter notre raffinerie. Et surtout lorsque nous entrons dans la zone des libre-échange. pour ceux qui ne le savent pas, dans la zone de libre-échange, on dit à chaque pays de faire un effort d'amener sur le marché international les produits pour lesquels il a plus de capacités que l'autre. On constatera qu'en ce moment-là, le Rwanda aura plus de capacités, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'or raffiné, que nous autres. Et par conséquent, en termes d'accord, on dira la République démocratique du Congo, vous vous laissez au Rwanda de raffiner, vous continuez toujours à produire, d'autant plus que vous gagnez aussi. Voilà tout ce que les autres pensent. Donc, s'il faut retenir quelque chose, nous devons nous situer comme leaders. Et lorsque nous nous situons comme leaders dans les négociations, parce que c'est nous qui avons les matières premières, nous pouvons dire au Rwanda, mais non. Voilà, voyons. 1, 2, 3, 4, 5 choses. Et lorsqu'on donne ces préalables-là, si on trouve que la République démocratique du Congo peut être gagnante et sa population,
alors,
à ce moment-là,
parce que
je crois qu'on peut aller dans cet accord.
Alors, nous avons parlé de l'accord, on a parlé sur éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts et de revenus. Vous avez évoqué tout à l'heure la pratique en termes d'effraction de marchandises. Le débat semble trop se focaliser sur la question de la raffinerie du Rwanda avec de l'or. Alors, si nous devons, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, si nous devons élargir le débat, la pensée au niveau de la RDC, c'est de voir, mais quelle est la quantité de l'or, par exemple, qui peut partir de Sakima vers le Rwanda, et notre capacité de production, que ce soit dans l'ancienne province orientale, que ce soit les autres extractions qui peuvent... que la RDC peut avoir à travers le pays. Est-ce que tout le débat va être focalisé sur l'accord Sakima et le Rwanda, alors que la RDC a encore d'autres gisements où on peut élargir la pensée sur les débats exactement des raffineries, peut-être pour que les débats ne soient pas occultés seulement sur Rwanda, Sakima, alors que la RDC a toute cette potentialité qu'il faut élargir ailleurs.
Merci beaucoup, M. Pierrot, par rapport à cette question. Mais regardez un peu les structures géologiques de notre pays par rapport à ces minéraux à l'or. Lorsque vous regardez le structure géologique par rapport à ces minéraux à l'or, vous constaterez que l'or se retrouve dans la bande des montagnes et des plateaux de l'Est. Alors, vous prenez le Tanganyika, vous prenez le Maniema, le Kivu, le deux Kivu, l'Ituri et les Haut-Télé, un peu dans le Tchopo. Donc si vous regardez, c'est cette bande-là où on retrouve de l'or. Et par conséquent, par rapport à la théorie de la périphérie, on ne voudrait pas prendre ces minéraux-là qui sont proches de l'usine construite au Rwanda pour pouvoir les vendre ailleurs. Tout investisseur, parce que nous n'avons pas assez d'investisseurs congolais qui pouvaient extraire de manière moderne, chez nous, ceux qui exploitent cet or-là, à nous particulièrement, ce sont les artisanaux. Mm-hmm. Et donc, si un investisseur veut venir, il va faire tous ces calculs-là. Il se dit, il y a déjà une usine au Rwanda, et que ces minéraux-là se trouvent proches du Rwanda, donc je préfère le vendre au Rwanda au lieu de vendre ailleurs par rapport aux coûts et autres aléas qui concernent le transport et consorts. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut retenir. C'est très important pour le Rwanda. Il n'y a pas l'or, assez d'or ailleurs, si ce n'est que sur cette bande de plateaux et des montagnes de l'Est. Et c'est propre du Rwanda. Mmh. Et deuxièmement, c'est par rapport aux quantités. Monsieur Pierrot, je me suis toujours infligé par rapport à notre pays. On ne peut pas construire une économie sans une base de données. Ce sont les statistiques. Notre base de données est toujours visée. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut te dire exactement, nous produisons combien en termes d'or, des kilos d'or. Et d'ailleurs, le plus simple, poser la question à tout Congolais, commençant par le premier et le dernier, nous sommes combien en République démocratique du Congo? Il y a combien d'habitants en RDC? Personne ne t'en donnera les chiffres. Alors que, je vous dis, Pierrot, je viens de dire tout à l'heure, le capital humain, c'est très important. L'homme en économie est très important parce que c'est le moteur de la production et en même temps c'est le moteur de la consommation. Et donc si on ne sait pas combien de bouches à nourrir, on ne sait pas combien de bouches qui produisent, on fait de l'économie au rabais. Et donc en termes de quantité, personne ne peut vous dire aujourd'hui nous ne savons pas combien. Mais tout ce qu'on peut retenir, le Rwanda fait ce qu'il fait parce qu'il sait que l'or c'est dans la bande des montagnes et des plateaux de l'Est. Voilà un peu comment je peux répondre à cette question.
On va écouter Deo Gracias qui est à Lubumbashi, espérons ici à Kinshasa. Deo Gracias, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, bonjour Radio Okapi et bonjour à l'invité, également à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, moi je voudrais juste souligner que les accords que le président a conclus au nom de l'État congolais et l'État rwandais, ces accords-là, il faut voir la part des choses. Depuis un certain temps, nous ne sommes pas en bon terme avec les pays voisins, c'est-à-dire le Rwanda. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut toujours faire confiance à cet État-là. Il fallait d'abord régler les conflits-là de l'Est pour qu'on puisse quand même conclure ce genre d'accord avec les États voisins. Voilà un peu ça. Même si les pays sur le plan international a toujours besoin de ne pas vivre à vase clos, a toujours besoin de s'ouvrir à tout le monde. Mais il faut voir, vous êtes en quel terme, vous vivez comment avec un pays qui vous fait souffrir où il y a longtemps, en même temps. Est-ce que réellement les droits et les obligations conclus dans ces accords-là seront respectés de bonne foi? Voilà la question que je me pose. Donc, il fallait d'abord chercher à pacifier cette partie-là du pays pour arriver maintenant à conclure ce genre d'accords.
Merci beaucoup. Deo Gracias, vous estimez qu'il fallait d'abord des discussions, une réconciliation en amont avant de pouvoir signer des accords avec le Rwanda. Espérons, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Ah, bonjour Monsieur Pierrot et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Conformément à l'article 217 de la Constitution du 8 février, la RDC peut conclure des traités et accords d'association ou des communautés acceptant les conséquences qui comportent notamment un abandon partiel de souveraineté. Pour tout ce que nous avons comme expérience des pays voisins, ces accords doivent avoir des aspects dans leur exécution. D'une part, promouvoir l'unité africaine dans la région et d'autre part, faciliter les voisins l'exploitation illégale de nos ressources sur l'œil n'est pas vigilant de la part de nos dirigeants. Étant donné que les peuples de ces coins du pays vivent chaque moment en insécurité, il a fallu ces accords pour identifier réellement les rebelles et les coupables des actes de barbarie et établir les responsabilités. C'est pourquoi nous en appelons à la conscience tranquille et normale par les Congolais et aussi les Rwandais pour promouvoir l'unité et la paix de l'Afrique.
Alors, vous estimez que les accords, il faut que cela conduise à la fin de l'insécurité, parce que rappelons quand même que depuis des décennies, il y a cette question d'exploitation illégale des ressources à travers l'insécurité des groupes armés qui fait aujourd'hui que les minéraux sont exportés frauduleusement. Alors, si nous pouvons revenir, professeur, avant peut-être qu'on ait un autre auditeur, sur la question, parce que au-delà, nous avons évoqué cette question d'insécurité. Est-ce que s'il y a à travers cet accord, on peut quand même à réduire l'effet des groupes armés sur l'exportation de minéraux qui sont exploités dans toutes ces zones de conflit?
Merci beaucoup, M. Perrot, pour cette question. Et je crois que les deux intervenants de Kinshasa sont rentrés sur la nécessité que ces accords nous amènent à la fin de l'insécurité à l'Est. Bon, je l'ai dit en ce qui concerne l'Union européenne ou la CEE à l'époque. Au fait, les accords économiques sont le socle des négociations ou les socles de la diplomatie pacifique entre les nations. Les accords économiques permettent de réussir là où les armes ont échoué. Parce que généralement, le conflit entre les nations, depuis le mercantilisme au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est en termes de richesse. Les pauvres vont chercher là où il y a les richesses, ils viennent avec toutes les forces pour pouvoir le prendre et le mettre à leur disposition et à leur gain. Et les riches, naturellement, pas les riches en termes réels, mais en termes potentiels, cherchent à se défendre. Voilà la guerre. Et lorsque les gens, j'ai donné l'exemple de l'Union européenne, la guerre là, la guerre mondiale ou la guerre entre l'Allemagne et la France, c'était un problème de charbon et d'acier. Mais à partir du moment où on a compris, les deux ont compris intrinsèquement que c'est ça la source des conflits et que nous pouvons nous mettre ensemble pour exploiter ensemble, moi je pense que les accords sont de bienvenue pour la République démocratique du Congo. Mais ces accords, en ce qui nous concerne, nous, c'est la manière dont notre voisin s'est bien préparé. Monsieur, je l'ai dit, quand quelqu'un construit une maison dans le désert, il a quelque chose qu'il cherche. Quand le Rwanda construit une usine dans le désert d'or, c'est-à-dire il a quelque chose qu'il cherche. Moi, je trouve que c'est à nous maintenant, c'est à nous de pouvoir voir si réellement ces accords peuvent nous aider effectivement à identifier le source des conflits. C'est réel, M. Pierrot. Quand je prends mon territoire de Nyonzou, aujourd'hui, il n'y a plus ces conflits qu'on disait « toi et Bantou ». Aujourd'hui, c'est un groupe de personnes, ensemble, toi et Bantou, qui sont soutenus par les Apanapale, qui proviennent de Fizi, qui exploitent, qui se mettent là dans les carrières d'or, et qui se mettent là en train d'exploiter de manière illicitement et faire traverser de l'or vers Bukavu, Rwanda. Vous comprenez? Si cela peut être utile pour notre population, moi je crois que c'est le bienvenu. Mais la crainte, comme je le dis de tous les Congolais, c'est le précédent. Mais aussi dans ces accords, il y a un accord qui m'intéresse beaucoup, je crois que la population n'en parle pas, c'est la convention en matière fiscale. Moi je pense que cet accord pour moi, je trouve c'est une très bonne convention, en ce sens que trop d'impôts sur l'impôt. Je vous ai dit que j'étais au commerce, un même produit est taxé doublement et lourdement, que ce soit au Rwanda ou en République démocratique du Congo. Il en est de même pour tous les autres pays voisins. Voilà pourquoi les accords ont été signés. Quand vous voyez avec la Zambie, ça ne pose pas de problème. Nous avons le même accord. Nous avons signé sous l'égide du ministre Jean-Lucien Boussa avec l'Angola. Il n'y a pas de problème. Mais avec le Rwanda, les gens doutent tout simplement parce que on ne sait jamais ce que les Rwandais pensent. Mais moi, cet accord, cette convention en matière fiscale, elle est très importante. Elle est très importante parce qu'elle doit réduire cette évasion fiscale. Vous savez, M. Pierrot, lorsque quelqu'un trouve qu'il est trop imposé par l'État et qu'il ne voudrait pas perdre sa richesse, il va créer ou développer automatiquement des mécanismes d'autodéfense pour échapper à cette soustraction extravagante. C'est par exemple la contrebande que nous vivons aujourd'hui à nos frontières.
Oui.
C'est dû aussi à des impôts qui sont très élevés. Les fractionnements de marchandises dont je parlais. Les gens se trouvent que bon, l'impôt est très élevé ou les taxes à la frontière sont très, très élevées. Ou si on échoue de passer par ces voies-là frauduleuses, carrément on passe par la corruption, on va corrompre les agents de l'État qui sont commis à la frontière. Et par conséquent, c'est l'État congolais qui perd. Et même le voisin qui perd aussi. D'où, pour moi, cet accord, je trouve, c'est un accord important, si bien même qu'on n'en parle pas. Mais la seule chose que nous disons, c'est la souplesse. La souplesse dans sa mise en œuvre. Est-ce que notre voisin, le Rwanda, va accepter? J'ai évoqué ici l'accord sur le PEPCGL que nous avons signé, mais vous voyez beaucoup de marchandises en train d'être, n'est-ce pas, fractionnées au niveau de Rwanda. Il y a des transbordements au niveau de Rwanda, et on le voit au vu au-dessus de tous. Bien que nous avons évoqué, vous et moi, que nos autorités sur le plan interne peuvent aussi jouer un rôle important.
Merci.
Mais
merci,
à partir
professeur.
Du moment où on a signé un accord, on doit être sérieux. Voilà ce que je peux dire à ce moment-là.
Voilà, merci beaucoup, professeur, d'avoir été avec nous. Et nous reviendrons peut-être prochainement encore parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses à dire autour de cette question et surtout de son impact sur la stabilité, le développement et la paix dans la région. Et nous vous disons merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le professeur Emmanuel Mukundi, député national, économiste. Et merci de nous avoir accordé de votre temps.
Merci beaucoup, M. Pierrot, surtout pour la radio Capi, de m'avoir donné la chance de partager avec mes frères congolais sur la question épineuse de l'air.
Merci beaucoup. Merci. Merci à Jean-Claude Nsiala qui était à la mise en onde de ce magazine réalisé par Kiria Ambatia. Quant à moi, Pierrot et la Meji, je vous retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Mais cette émission est sur www.radiocapi.net. Mais vous pouvez également continuer à débattre avec l'ensemble de nos internautes sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs.